7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, retour sur la loi Veil et la légalisation de l'avortement. Il y a 40 ans, en France, nous étions au deuxième jour de discussion violente à l'Assemblée nationale sur la loi Veil qui proposait de rendre légal l'avortement en France ou de dépénaliser l'avortement en France. Nous allons revenir sur cette loi historique et sur sa portée dans la société, sur l'héritage de la loi Veil aussi aujourd'hui pour les femmes. Pourquoi la légalisation de l'avortement, au-delà d'une histoire de bonne femme, est une loi qui touche à des interrogations existentielles de l'humanité. Et puis pourquoi les droits sexuels font l'objet de débats si passionnels dans un pays comme la France. Dernier exemple en date, le mariage pour tous il y a près de 2 ans. Nous allons en discuter avec nos invités. À ma gauche dans le studio de RFI, Jean Lebrun, journaliste historien, producteur de l'émission La Marche de l'Histoire sur France Inter. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Emmanuel.
Je suis ravie d'accueillir un collègue. Et vous venez de publier Les grands débats qui ont fait la France chez Flammarion. Alors évidemment, la question sur la crispation de la société française sur les droits sexuels, c'est à vous que sera posée la question. Michel Rio-Sarcey va arriver d'une minute à l'autre dans le studio Les Professeurs Émérites à Paris 8 et elle a publié De la différence des sexes, le genre dans l'histoire et l'histoire du féminisme également, dont elle prépare la 3e édition puisque l'histoire ne s'arrête jamais. Bibia Pavard est avec nous, historienne à Paris 2. Vous êtes l'auteur des lois Veil et puis un autre ouvrage, Si je veux, quand je veux. Oui, ça parle à tout le monde.
Oui, exactement, bonjour.
Et quant à vous qui nous écoutez, les voisins et les voisines, bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez réagir ou questionner nos invités via les réseaux sociaux ou bien en nous appelant au 33 1 84 22 71 71. Mais dans l'immédiat, je voudrais qu'on donne la parole à Yvette Roudy, 85 ans aujourd'hui. Elle est l'une des 343 femmes à avoir signé le fameux manifeste des 343 publié par le Nouvel Observateur pour dire publiquement « je me suis fait avorter ». Donc elle a réclamé l'avortement libre. Yvette Roudy au micro de Charlie Dupio.
L'idée était venue, je crois, à un journaliste du Nouvel Observateur, qui n'a pas eu de mal, d'ailleurs, à réunir un certain nombre de personnalités. À l'époque, la situation était scandaleuse, c'était en 71, et beaucoup de femmes les plus pauvres, naturellement, parce que celles qui étaient les plus aisées pouvaient toujours trouver des adresses et traverser la frontière où elles trouvaient là les services, mais en France, on laissait ces personnes en danger.
Parce qu'elles pouvaient recourir à des avortements clandestins, c'est ça ?
Elles avaient recours à ce qu'elles pouvaient trouver. Donc c'était ce qu'on appelait les faiseuses d'anges, c'était donc n'importe qui. Et c'était souvent de graves, graves dangers. Donc c'était cette situation de détresse que nous avons voulu stopper. La proclamation était très courte. On disait, voilà, nous avons avorté parce que nous demandons tout simplement que cette liberté soit accordée aux femmes, qu'elles puissent véritablement avoir la maîtrise de leur corps. On risquait même la prison à l'époque et des poursuites judiciaires. C'était très grave. Il y avait la loi de 1920 qui ne badinait pas. La loi de 1920 a interdit aux femmes d'avorter sous peine d'être poursuivies comme un crime. Donc, en signant ce manifeste, on savait qu'on risquait gros. Et effectivement, ce manifeste a créé un choc dans la classe politique. Ça a un petit peu interloqué ces messieurs qui faisaient la loi, n'est-ce pas, puisque c'est la forte majorité, encore aujourd'hui d'ailleurs, les décideurs qui font la loi sont masculins. Le choc a été créé dans la classe politique parce que au fond, ils ont été culpabilisés. Donc ça c'était en 71. Donc Valéry Giscard d'Estaing, lui, a été alerté par cette affaire. Et quand sont arrivées les élections présidentielles de 74, quand il a été élu, il a dit à ses amis, au petit cercle de ses amis qui étaient là, « J'ai l'intention de libéraliser l'avortement, mais il faut que je trouve une femme qui soit une magistrate, qui soit solide, qui ne craque pas. » Antoine Veil était là. Et il a dit, moi je connais une femme, c'est ma femme. C'était donc Simone Veil. Voilà, c'est comme ça que Simone Veil s'est vue offrir un ministère avec aussi la mission de libéraliser l'avortement. Et elle l'a fait.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame.
Voilà, on vient d'entendre là un extrait du discours prononcé par Simone Veil à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974 et juste avant donc Yvette Roudy qui était l'une des 343 femmes à avoir signé le manifeste des 343 à dire je me suis fait avorter, Bibia Pavard et Jean Lebrun. Peut-être il faudrait qu'on recontextualise, que les auditeurs s'imaginent Simone Veil effectivement s'adressant à cette Assemblée nationale où il y a 9 femmes députées pour 481 hommes à l'époque. Jean Lebrun.
D'abord, Emmanuel, il y a une nouvelle majorité dans cette Assemblée qui est liée à l'élection du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui est une majorité divisée. Un petit peu comme aujourd'hui, je dis ça pour nos auditeurs d'Afrique, le Parti Socialiste est divisé en France. Le Premier ministre, c'est Jacques Chirac, les gaullistes sont les plus nombreux, et les giscardiens, dont le candidat a été élu par un concours de circonstances qui ne se reproduira jamais dans l'histoire de la Ve République, c'est rarissime qu'un centriste arrive sur le podium, sont minoritaires. Et donc, à droite, il y a des sentiments extrêmement partagés, d'autant que Valéry Giscard d'Estaing irrite les plus conservateurs de sa majorité en ne suggérant pas seulement l'avortement mais en imaginant d'autres réformes de société. Il faut voir que c'est grâce à lui que la majorité est advenue à 18 ans pour les plus jeunes électeurs et puis qu'il a aussi des promesses à tenir sur le divorce. Et on se retrouve avec un point d'équilibre très difficile à trouver entre les membres de la majorité qui ne sont pas d'accord et la gauche qui, prise à contre-pied, est quand même obligée de dire oui à Valéry Giscard d'Estaing. Et on parle beaucoup de Simone Veil, bien évidemment, et de son discours et de son rôle. Bibia va rappeler que c'était peut-être pas exactement dans les conditions que disait Yvette Roudy qu'elle a été choisie, mais il faut bien savoir que l'homme lige, l'adjoint, celui qui a toujours les mains dans le cambouis, Michel Poniatowski,
ministre de l'Intérieur à l'époque,
de Valéry Giscard d'Estaing, a été un moment ministre de la Santé, et qu'il voyait le danger monter, mais si un jour, dit-il à Simone Veil et à Valéry Giscard d'Estaing, des femmes viennent se faire avorter, là, avec les nouvelles méthodes pas si mal commodes, dans le bureau du ministre de la Santé, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, Simone Veil est une femme ministre de la Santé, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, elle est envoyée au charbon, quand même?
Oui, alors
pour cette loi.
Effectivement, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'importance du choix d'une femme. Alors pourquoi est-ce si important d'avoir une femme qui défend cette loi face à une assemblée d'hommes, vous l'avez rappelé, c'est parce que les femmes se sont mobilisées pour la libéralisation de l'avortement depuis 1970. Donc il y a eu un vrai mouvement, un mouvement de libération des femmes qui a porté cette question de l'avortement libre et gratuit. Et c'est important parce que la question elle était posée un peu avant. On l'oublie, avec l'idée d'élargissement de l'avortement thérapeutique sous un angle qui était plutôt un angle de santé publique, mettre fin aux avortements clandestins, dangereux pour la santé, voire la vie des femmes. Et là, le mouvement de libération des femmes naissant, avec le manifeste des 343, avec d'autres événements, le procès de Bobigny, mettent en scène des féministes, revendiquent...
Alors le procès de Bobigny, c'était une jeune femme qui avait été victime d'un viol, et qui avait été condamnée pour s'être fait avorter.
Exactement, elle était condamnée avec sa mère.
Qui a été acquittée grâce à son avocate Gisèle Halimi.
Et les collègues de sa mère, qui est important avec ce procès de Bobigny, c'est que c'était une jeune femme, très jeune, issue de classe populaire, de banlieue. Et donc d'un coup, ça a mis au jour les réalités en fait sociales et les inégalités face à l'avortement clandestin.
Mais si je peux vous interrompre un instant, Bibia, il n'y a pas seulement ce qui est visible, le procès, le manifeste du Nouvel Observateur, il y a ce qui se passe dans les cabinets gynécologique et il y a ce qui se passe au planning familial quotidiennement et en effet pas seulement dans les quartiers de la bourgeoisie parisienne
y compris à l'Assemblée nationale mais où les députés se refilent des adresses pour aller faire avorter leur épouse ou leur maîtresse, etc. C'était ça, la vie quotidienne.
Il y a un film extraordinaire qu'on ne voit plus hélas parce qu'il y a des problèmes de droit autour de sa diffusion, c'est Histoire d'art de Belmont qui raconte comment des cars le matin partent pour l'étranger avec des femmes qui vont se faire avorter avorter.
À l'époque, en 74, on avait combien de femmes qui se faisaient avorter par an clandestinement?
Alors, on ne le sait
près,
pas.
Oui,
on ne le sait pas, c'est clandestin.
On parle de plusieurs centaines de milliers.
Oui, on estime à 300 000 avortements
par an.
Voilà. Et bon, c'est, évidemment, c'est une estimation. C'est clandestin, c'est caché. Il n'y a pas de chiffres. Les chiffres sont venus après la loi.
Alors, juste une question de Martine ou une précision de Martine qui nous écrit sur les réseaux sociaux de Madagascar, qui nous dit un peu partout, on entend parler de la légalisation de l'avortement, nous dit Martine, sans jouer sur les mots, autant que je me souvienne, il est question de dépénalisation de l'avortement. Pour moi, la nuance est importante.
Ah oui, parce que Simone Veil, elle va, dans son discours du 26 novembre, chercher justement le point d'équilibre. À l'Assemblée, on cherche toujours un point d'équilibre. Mais est-ce qu'on peut, Bibia, essayer de dire pourquoi elle a été choisie? Yvette Roudy dit, c'est parce que c'est une magistrate. Moi, je dirais que c'est parce qu'elle n'est pas élue et qu'elle va être comme une sorte de môle d'indifférence aux intérêts électoraux dans la houle parlementaire qui va se lever. Elle n'a pas d'intérêt de circonscription, d'intérêt partisan à défendre.
Oui, et puis je pense qu'elle ne... Elle n'incarne pas une ligne politique. Disons qu'elle est haut fonctionnaire. Et donc, elle a cette image de neutralité peut-être technique qu'elle met d'ailleurs en avant. Hein. Elle présente un texte qui est très technique à de nombreux égards. Et, bon, en plus, c'est une femme qui est, donc capable en tant que femme de porter la voix des femmes. Et ça, il faut le rappeler, c'est la première femme ministre de plein exercice de la Ve République. Et c'est vraiment la première femme à avoir à débattre à l'Assemblée d'un texte aussi important.
Mais je sais que l'émission s'appelle 7 milliards de voisines, mais c'est un
non,
homme...
Non, de voisins, mais c'est au sens
homme,
humanité.
Lucien Neuwirth, qui a été pionnier avec sa loi sur la contraception peu auparavant, qui...
En 67, donc la pilule est déjà légale en 67.
Le porte-parole du point de vue le plus politique. Alors, c'est un homme de droite, c'est un gaulliste, c'est un chrétien, mais il dit que les chrétiens doivent être soucieux de l'injustice avant tout, et c'est peut-être lui qui porte le plus haut les exigences des femmes.
Est-ce que les députés qui étaient contre l'avortement finalement avaient peur et se disaient mais elles ont déjà la pilule, ou jusqu'où va-t-on aller?
Jean Fouayet, qui avait été garde des Sceaux et qui incarnait souvent en latin le point de vue le plus conservateur, faisait la distinction entre le droit à la contraception qu'il contestait, la légalisation ou la dépénalisation, comme le dit votre auditrice, de l'avortement, qu'il jugeait encore pire. Alors Jean Fouayet disait la contraception, c'est offrir beaucoup de liberté à la femme qui, par définition, doit être mère et porter haut les valeurs de la fécondité. L'avortement, c'est pire, c'est le droit de tuer qui est mis en avant. Et donc les plus conservateurs...
Qui étaient donc passibles de poursuites pénales.
Ils étaient beaucoup plus hostiles à l'avortement qu'à la contraception.
Bibia Pavard, poursuite pénale, ça allait jusqu'à combien de prison? Moi, j'ai retrouvé 6 mois à 2 ans pour la femme qui avorte, 5 à 10 ans pour les avorteurs, les faiseuses d'anges.
Oui, mais ça n'était pas,
aux avortements
ça n'était pas
clandestins.
Appliqué.
Oh, c'est une loi qui était effectivement appliquée de façon, disons, limitée. Et c'est vrai que le jugement du procès Bobigny qu'on a évoqué, il y a une, voilà, c'est des choses qui, c'est le contexte plus général qui fait qu'on ne condamne pas véritablement. Simplement, c'est un interdit qui empêche de façon préventive et qui permet aussi, je dois le rappeler, cet interdit de punir d'une certaine manière les femmes qui, après un avortement clandestin, se retrouvent à l'hôpital et doivent faire face à un certain nombre de vexations de la part du corps médical.
Et dans des conditions de santé déplorables. Alors, la loi Veil, 40 ans après, nous y revenons. Là, est-ce que c'était finalement une loi de santé publique ou une loi féministe de libération des femmes? Réponse dans quelques instants avec vous deux.
Le faiseur de pluie de fête tous les temps. Thank you.
faiseur de pluie par tous les temps, Saline Yolo, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Michel Rio-Sarcé vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Michel Rio-Sarcé, je vous ai présenté en début d'émission. Vous êtes historienne, spécialiste des questions de genre, de féminisme. Alors je posais la question juste avant de lancer cette jolie chanson, Le faiseur de pluie par tous les temps. Finalement, la loi Veil, il y a 40 ans, en 74, est-ce qu'elle était présentée comme une loi donc qui légalise l'avortement, qui dépénalise l'avortement? Est-ce que c'est présenté comme une loi de santé publique ou une loi féministe, Michel Rio-Sarcé?
Ah, ça, comment est-ce présenté?
Chacun d'interpréter
le texte et le discours. Je n'en ai pas la moindre idée. Il y a eu toutes sortes d'interventions, les plus, à mon avis, les plus irrévérencieuses à l'égard de la personne qui a présenté cette loi, en particulier donc Simone Veil. Bien entendu que la perception s'était reçue comme une loi féministe, c'est-à-dire une loi laissant entendre que les femmes étaient maîtresses de leur corps. Mmh. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas admettre.
Et l'argument de Simone Veil, c'était plutôt de sauver la vie de femmes qui se faisaient avorter clandestinement et qui, même si l'avortement était illégal, y avait recours, donc dans des conditions catastrophiques sur le plan humanitaire.
Bien sûr, l'argument de Simone Veil était celui-ci.
Pour ne pas froisser la droite, c'était peine perdue ou quoi?
Je ne peux pas me mettre à la place de Simone Veil, mais tout ce que je peux rendre compte à l'heure actuelle, c'est-à-dire quelques années plus tard, c'est moins qu'on puisse dire, cette loi a été perçue non pas par pour une question de santé publique, elle a été argumentée, on a argumenté dans cette direction, notamment le centre droit de l'époque, pour essayer justement de diminuer un petit peu les critiques, de minimiser les critiques, mais fondamentalement cette loi a été considérée comme une loi donnant un droit aux femmes, un droit à l'égalité et surtout un droit à être maîtresse de leur propre corps.
Qu'est-ce qui faisait peur aux...
maîtriser leur propre corps.
Est-ce que c'est ça qui faisait peur aux hommes, Jean Lebrun?
Quand on revient au texte, parce que notre livre, il est fondé sur une expérience qu'on fait avec des comédiens du français au théâtre du Vieux Colombier, on redonne vie aux débats tels qu'ils étaient, et on revient à la source.
Au débat à l'Assemblée nationale.
On l'a donné au Vieux Colombier, le débat, 74, avec Simone Veil. Simone Veil est dit, il faut pas faire injure à la loi, puisqu'elle ne peut plus être appliquée, il faut réfléchir au sujet. Elle se place d'un point de vue technique aussi, mais elle explique que donner la vie, je la cite, est un acte responsable, il doit être librement consenti. Cette responsabilité appartient d'abord aux femmes, et elle ajoute, les femmes veulent conquérir leur égalité dans le travail, la famille, la société, avoir le temps et les moyens de vivre et d'élever décemment leurs enfants, participer les premières aux choix qui les concernent. Donc elle est quand même beaucoup moins en retrait qu'on ne le dit rétrospectivement aujourd'hui.
Vous avez raison.
Bibia Pava.
Disons qu'il y a un aspect très important dans cette loi par rapport au projet qui avait été discuté en 1973, un peu avant, c'est que c'est la femme seule qui décide ou non.
Oui, elle n'a pas besoin de l'autorisation du conjoint, de son mari.
Mais surtout d'un collège de médecins ou de personnalités qui auraient jugé si elle était en détresse ou non. Et ça, c'est très important. C'est une avancée importante. Et ce qui fait que finalement ce projet de loi est soutenu par la gauche, c'est le fait de mettre la femme au centre.
Ouais. La décision ultime, je la cite, ne peut être prise que par la femme.
Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque où la femme est obligée de demander des autorisations pour pas mal de choses. Il n'y a pas si longtemps, peu avant,
en 1965, elle doit demander encore, jusqu'en 1965, pour avoir l'autorisation du mari pour pouvoir travailler.
Vous restez avec nous tous les trois, nous revenons juste après le flash, c'est-à-dire dans 3 minutes, 40 ans après l'avortement.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI et de voisines. Nous sommes aujourd'hui 40 ans après la loi Veil, et il y a 40 ans, on était en pleine discussion à l'Assemblée nationale, des débats houleux qui ont duré 3 jours, cette fameuse loi qui dépénalise l'avortement en France. Aujourd'hui, quel héritage de la loi Veil pour les femmes? On en discute avec vous, Jean Lebrun, vous publiez, d'abord vous êtes le présentateur, le producteur de la Marche de l'Histoire sur France Inter tous les jours du lundi au vendredi, et puis vous publiez les grands débats qui ont fait la France. parmi ces grands débats, bien évidemment, le débat sur la dépénalisation de l'avortement. Michèle Rio-Sarcey, vous êtes historienne et davantage spécialisée sur le genre et le féminisme. Et Bibia Pavard, vous, en tant qu'historienne, vous avez surtout travaillé sur les lois Veil et en particulier la loi qui dépénalise l'avortement, sachant que cette loi a été votée pour 5 ans et qu'ensuite le feuilleton continue. Et on va en parler. Sur ces peurs par rapport à cette loi Veil, je voudrais qu'on revienne là-dessus. On en a dit un petit mot juste avant le flash. Il y avait la peur d'une sexualité débridée ou pas, ou ça c'était juste un argument politique, Michèle Rio-Sarcey.
Oui, tous les
dans les foyers français là.
Tous les arguments qui ont été avancés ressemblent étrangement aux arguments actuels qui sont donnés par le public à propos du genre et des peurs que suscite cette fameuse théorie du genre. Donc c'est du même ordre. Ces peurs masquent ces arguments sur la démographie, sur la sexualité débridée.
La démographie, ça veut dire si l'avortement est autorisé, on va manquer d'enfants.
On va manquer d'enfants. Qui prouvent qu'ils ont eu tort.
Mais
parce que compte tenu de la démographie française aujourd'hui, ça n'était pas la question, puisque le nombre d'avortements n'a pas augmenté, il a toujours été à peu près identique, 40 000 je crois. Et donc ces arguments-là, il faut bien les entendre, et ces arguments masquent une peur extraordinaire. À partir du moment où la femme, où les femmes peuvent être à égalité dans la sexualité et dans le quotidien, c'est quelque chose qui terrifie. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe. Par exemple, le Premier ministre turc qui vient d'expliquer que le rôle des femmes, c'est un rôle d'enfanter. Limité au foyer et donc d'enfanter. Cette question a toujours été centrale et je crois qu'elle est toujours d'actualité et elle revient constamment. Ça n'a jamais été un acquis. Donc cet avortement, cette loi sur l'avortement, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui libère considérablement les femmes. Mais en même temps, il faut être vigilant et vigilante parce que c'est quelque chose qui risque d'être mis en cause parce que cette peur est là, latente, fondamentale.
Sur la peur dans les foyers français à l'époque, Jean Lebrun.
Ne jugeons pas. Mes vieux maîtres en histoire m'expliquaient, écoutez avant de juger. Alors dans le mot peur, il y a aussi, Michel, une forme de jugement. Si on écoute les débats, on voit par exemple...
Je suis profondément engagé subjectivement.
Un certain nombre de chrétiens de l'époque avoir des points de vue moins militants que les catholiques de la manifestation pour
c'est juste
tous.
Contre le mariage pour tous.
Albin Chalandon, par exemple, qui est une figure importante de la droite, dit en tant que chrétien, je refuse, mais en tant que chrétien, je ne peux pas ignorer une souffrance, un drame, une iniquité, et alors qu'il y a les manifestants fondamentalistes de laisser les vivre qui organisent des processions autour du Palais Bourbon,
donc, contre la légalisation de l'avortement.
Albin Chalandon, il dit, ne soyons pas dans cette position extrême. Une laïcité, bien entendu, veut que l'État soit neutre et qu'il prenne des positions en fonction du rapport des forces qui cherche un point d'équilibre. Et si les chrétiens les plus conséquents ne veulent pas pratiquer leur avortement, c'est leur liberté de minorité. Mais alors, d'autres, en effet, là je vous voulais une citation, j'imagine, sur l'aphrodisiaque et la permissivité, Emmanuel Bastide, le docteur René Feit, député du Jura, gynécologue, il y a beaucoup de médecins dans l'Assemblée, beaucoup plus que de femmes, et ils parlent au nom de leur expérience personnelle. Alors il dit, mais c'est terrifiant, ça va être une société allumeuse de passions charnelles. Et il va plus loin, et il dit, attention, derrière, il y a la manipulation du corps humain, il y a la transformation de la nature, telle que la théologie du Moyen-Âge ne le voulait pas, et il y aura l'eugénisme et l'euthanasie. Ça, c'est un argument important aussi.
Bibia Pavard.
Oui, alors effectivement, cette peur de la sexualité débridée est présente. On a une autre citation du député UDR de Haute-Loire, Albert Liogier, qui dénonce la dégradation des mœurs et déclare « En France, pour l'instant, nous le savons bien, c'est Satan qui conduit le bal. Et pour Satan, contraception et avortement ne sont que deux chapitres du grand et même livre de la sexualité. » Donc il y a vraiment une continuité entre les deux. Et l'autre argument, c'est vrai, il faut insister là-dessus, parce que c'est ce qui a été retenu par la postérité, cette idée d'eugénisme. stalinisme et de comparaison avec le régime nazi. Elle est présente, mais elle est présente dès 1970 chez Laissez les vivre. Il y a cette idée qu'on va retrouver des pratiques qui étaient mises en place par les nazis. C'est un argument très fort
pour les il faut repréciser
quand même qu'à l'Assemblée nationale, Simone Veil, ministre de la Santé, donc, et, qui propose cette loi, ancienne déportée à Auschwitz, s'est vue accusée de vouloir envoyer, et de vouloir envoyer ses embryons dans des fours crématoires. Ça a été extrêmement violent pour elle. Quelle était la position de l'Église, finalement, alors, à cette époque?
Beaucoup moins engagée que celle de.
Oui, officiellement.
Beaucoup moins engagée que celle de. Elle a pris position. Dans l'affaire du mariage pour tous.
Oui, elle a pris position contre.
Mais c'est normal qu'elle prenne position contre. Si une laïcité, bien entendu, je vais reprendre Albin Chalandon, laisse les forces religieuses s'exprimer dans le débat, à condition qu'elle ne pèse pas après sur l'application de la loi et qu'elle ne cherche pas par la manifestation à tout prix à s'opposer à ce qui se déroule dans l'enceinte parlementaire. Il y a une très grande différence entre la position de l'Église en 1974 et la position qui a été à un moment, en tout cas, celle de l'Église dans l'affaire du mariage pour tous en France il y a quelques mois.
Est-ce qu'à l'époque, en 1974, l'Église demande ou marchande la possibilité pour les médecins de refuser l'avortement, donc amendement à la loi Veil, en échange d'une relative neutralité, Michel Rio-Sarcey.
Oui, ils obtiennent justement la possibilité pour les médecins de refuser l'avortement, c'est-à-dire un droit de
refus. Donc pour les médecins chrétiens, ils peuvent dire c'est contraire à mes convictions, je ne peux pas avorter cette patiente.
Et la loi passe
avec cet amendement-là et avec le non-remboursement de l'interruption volontaire de grossesse.
Et le remboursement intervient en 82.
Voilà, justement, on va entendre Yvette Roudy, on va la réentendre, l'une des signataires des 343 femmes qui, avant 74, avait signé ce manifeste qui disait « Je me suis fait avorter », donc pour réclamer la légalisation de l'avortement. Elle a ensuite été ministre déléguée aux droits de la femme sous Mitterrand, et c'est elle qui, effectivement, en 82, est à l'origine de la loi qui autorise le remboursement partiel de l'avortement. Donc, 8 ans après l'adoption de la loi autorisant l'avortement, elle s'exprime au micro de Charlie Dupiot.
Ça n'a pas été simple. Là, j'ai découvert les forces de l'opposition. Je ne le croyais pas. En vérité, je ne savais pas, j'ignorais complètement que l'Église catholique romaine pouvait être aussi puissante en France. Il y a eu concrètement Monseigneur Lustiger qui a mobilisé tous les couvents de France et de Navarre, provoqué des pétitions. Moi, j'étais donc ministre des droits de la femme. J'étais convaincue que j'étais dans le bon droit et qu'il y avait des fondamentaux. Il y avait comme ça le remboursement de l'IVG. Alors pourquoi? Quels sont les arguments que j'ai utilisés? Il y a une inégalité profonde entre celles qui ont les moyens financiers et celles qui ne les ont pas. Voilà, c'est avec cet argument-là que je suis arrivé à convaincre le président. Ben, c'était François Mitterrand. Et c'est là que j'ai découvert cette opposition terrible de la part de l'Église catholique romaine et de la part de l'extrême droite.
Donc là, nous sommes 40 ans après cette loi qui autorise l'avortement, presque 30 ans après celle que vous avez défendue et qui autorise le remboursement de cet avortement. Mmh. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ces combats-là?
Je tire comme leçon que rien n'est jamais définitivement acquis. Le danger est permanent, les opposants n'ont pas du tout désarmé, ils sont toujours là, et dès qu'ils pourront, ils revendiqueront, ils essaieront de faire abroger cette loi. D'ailleurs, il faut voir ce qui se passe dans les autres pays. Ça s'est passé récemment en Espagne. Bon, ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Donc, s'il n'y avait pas eu une opposition considérable, il serait resté. Non, le machisme ne va pas désarmer.
Même si ces résistances existent, encore aujourd'hui, c'est le fait d'une minorité, finalement.
Je ne sais pas si c'est une minorité. Ça peut devenir une majorité du jour au lendemain. Les nouvelles générations doivent comprendre qu'il y a encore 50 ans, les femmes n'avaient pas le droit de voter, elles n'avaient pas le droit d'exister. Ma mère ne votait pas. Donc tout ça est très récent, donc très fragile. Regardez, en ce moment, on va vous dire que la loi qui autorise le mariage pour tous, qui est malgré tout un progrès de démocratie, est menacée. Vous avez eu un personnage important qui a dit on va l'abroger.
Nicolas Sarkozy, ancien président français.
Donc on ne doit pas toucher à l'IVG. telle qu'elle est en ce moment et à son remboursement, parce que dès l'instant où vous y touchez, vous avez immédiatement les conservateurs qui vont se faufiler et qui vont essayer de revenir en arrière. Le progrès est constamment menacé.
Yvette Roudy, ancienne ministre sous François Mitterrand, 85 ans, et bien toute sa tête pour analyser, et surtout, bien évidemment, c'est son passé de militante là qui revient. Vous partagez son sentiment d'inquiétude, tous les trois, Jean Lebrun, Michel Rio-Sarcé.
Mais il y a un argument qu'on n'a pas cité tout à l'heure qui était utilisé par la droite, c'est l'argument du référendum. Le docteur Fay, toujours le même, le gynécologue du Jura, dit qu'il n'y a qu'à porter la question sur le mode référendaire. Je ne sais pas quel aurait été le résultat en 1974. Les parlementaires sont toujours jaloux de leur droit d'initiative, de contrôle et de législation, et même pas beaucoup qu'on fasse référence au référendum. La question du référendum a été évacuée. Mais la question du référendum, elle se pose aussi à propos du mariage pour tous. Nicolas Sarkozy a dit je vais faire toute une série de référendums si je suis réélu président de la République. Y aura-t-il un référendum sur cette question-là ?
Les Français sont majoritairement...
Mais on sait que 63% des Français sont plutôt favorables au mariage pour tous. Alors, l'argument du référendum est à la fois mis en avant et retiré quand, tout d'un coup, on s'aperçoit que les possibilités de le gagner sont bien moindres qu'on ne le pensait.
Michel Rio-Sarcé,
je pense que Yvette Roudy émet des doutes et émet des craintes fondées. Hein. C'est fragile, la remise en cause du droit peut intervenir à tout moment.
Et vous pensez à quoi là ? Vous pensez à ce qui s'est passé cette année, 2014,
absolument.
Il y a quelques mois.
Ce qui s'est passé en Espagne est extrêmement important à prendre en compte.
Mais vous faites aussi allusion au moment du vote de la loi égalité femmes-hommes, où on a supprimé dans la légalisation de l'avortement la notion de détresse, c'est-à-dire qu'une femme n'a pas à se justifier quand elle demande à avorter auprès d'un médecin.
Par exemple, mais c'est plus global, c'est-à-dire que la société à l'heure actuelle a peur, globalement a peur de ce qui va advenir. On ne sait pas très bien, compte tenu de la crise, quel va être le devenir des Français et globalement des Européens. Et donc, on se replie sur ce qu'on estime être les acquis. Et les acquis, qu'est-ce que c'est ? Dans toutes les sociétés occidentales et autres, les acquis, c'est la hiérarchie entre les sexes. À partir du moment où on la menace, où elle risque d'être mise en cause par la question de l'égalité, bien sûr, les craintes se manifestent, les peurs les plus irrationnelles.
Les positions ont évolué en profondeur. Vous preniez l'exemple de l'Espagne, le parti de droite qui a la majorité met en avant cette question, et puis celui qui la porte, le ministre qui s'est identifié à cette question-là, voit qu'il est tout seul maintenant en race campagne, parce que l'opinion n'est pas en fait derrière lui.
Oui, mais peut-être que ça va revenir. Je pense jamais que ce genre de choses est acquis définitivement.
Vous dites tout est possible, finalement.
Tout est possible. Et c'est pourquoi il faut être vigilant, non pas au nom du progrès, mais au nom tout simplement de cette question fondamentale que chaque individu est un, comme la République, un et indivisible, et est maître chez lui. Donc, avec ce que ça implique comme respect de la liberté de l'autre et le respect de l'autre en général. Et on voit bien à l'heure actuelle, que ce soit en France ou ailleurs, à quel point l'autre fait peur. L'autre, qu'il soit immigré, juif, musulman, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, les femmes, les sociétés sont construites sur la hiérarchie des sexes, sur la domination homme-femme. À partir du moment où c'est quelque chose qui est mise en cause, obligatoirement, c'est tout le reste de la société.
Certains disent aujourd'hui que la loi sur l'avortement n'est pas complète parce que finalement, c'est pas un droit non opposable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin, encore aujourd'hui, en France, peut dire c'est contraire à mes convictions, donc il peut invoquer une clause de conscience. Par contre, il n'a pas le droit de bloquer le processus, donc il doit vite adresser sa patiente à un autre médecin afin que le délai légal ne soit pas dépassé. Vous pensez, vous aussi, que Bibia Pavard, que cette loi a quelque chose d'incomplet du fait qu'il y ait la clause de conscience des médecins ?
Disons que la grande question qui se pose dès le vote de la loi, c'est la question de son application. Et c'est sur ça que s'est dirigé, sur cette question de l'application, que se sont mobilisés les féministes depuis 1974. Et alors, il y a eu des avancées légales, on les a un petit peu rappelées, le remboursement en 1982. 1993, il est interdit donc d'entraver la pratique des IVG.
Ça, c'est pour les médecins, c'est ça ? Donc ils n'ont pas le droit d'entrer, mais ils peuvent refuser.
Ça, c'est pas pour les médecins, pardon. C'était pour contrer les pratiques des commandos anti-IVG qui manifestaient dans les centres d'IVG et qui essayaient d'empêcher, en fait, très concrètement, les femmes de pouvoir avoir accès aux droits. Et donc, il y a eu toute une série d'approfondissements de cette loi qui ont été passés par la gauche successivement jusqu'à la loi d'égalité hommes-femmes que vous avez évoquée en 2014, qui enlève cette idée de situation de détresse. Il y a toujours, par contre, et ça c'est vrai, aujourd'hui en France, des difficultés pour avorter, alors que ça soit pour des questions simplement de fermeture de centres d'IVG, des questions qui sont cachées derrière l'idée de économique, en fait, de la nécessité, en fait, de fermer des endroits qui permettaient, en fait, l'accès à l'IVG très concrètement. Et puis il y a cette fameuse clause de conscience, et c'est vrai que il y a un rapport qui a été rendu récemment par le Haut Commissariat à l'égalité hommes-femmes, qui femmes-hommes, pardon, qui a dit qu'il fallait revenir sur cette clause de conscience.
Mais vous ne pouvez pas obliger un médecin à pratiquer l'avortement si, au nom du serment d'Hippocrate ou au nom de ses convictions chrétiennes, il ne le veut pas. C'est pas un officier d'état civil comme celui que la loi oblige à marier des couples du même sexe. Moi, j'aime beaucoup l'argument de Michel Orio-Sarcey. C'est pas au nom de je ne sais quel progrès qu'il faut défendre la loi Veil, c'est au nom du respect des convictions de l'autre. Aux chrétiens de respecter, s'il est minoritaire, les convictions de l'autre, mais que les laïcistes ne deviennent pas laïcistissimes et obligent tous les médecins chrétiens à pratiquer l'avortement.
Alors, je voudrais qu'on revienne dans quelques instants sur tous ces débats sur les droits sexuels. Est-ce qu'il y a une spécificité française, puisque vous avez abordé la question du mariage pour tous? On y revient dans quelques instants. Tahiti 80 chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous revenons sur le débat sur la légalisation de l'avortement, la loi Veil. On est 40 ans après. On se rend compte que ça a été un débat extrêmement violent, largement aussi violent. Enfin, je sais pas si on peut établir des hiérarchies, mais évidemment, ça nous fait penser au mariage pour tous. Il y a près de 2 ans qu'il y a vraiment divisé la société française, pas à parts égales, mais néanmoins ça a été très violent aussi. Est-ce que ces débats sur les droits sexuels, sur la famille, sur la filiation, sur la naissance, Jean Lebrun, c'est une spécificité française, cette passion française?
Peut-être, et c'est bien au fond qu'il y ait des débats ouverts, mais quand on a fait l'histoire des grands débats parlementaires qu'on reconstitue régulièrement au théâtre pour nos auditeurs de France Inter, on a vu que à partir du début du XXe siècle, il y a le système de la discipline des groupes qui s'installe, imposé d'abord par les socialistes qui veulent se fédérer parce qu'ils étaient éclatés en beaucoup de chapelles. Il y a au bout de la rangée, de la travée au Parlement, le boîtier qui enregistre les votes des députés absents. Les députés sont obligés de voter contre leur groupe et ils deviennent des rouages d'une immense mécanique, et ça les frustre. Et quand Il y a maintenant des débats sur les questions morales, sexuelles, sur des questions de démocratie technique aussi, où il est très difficile de faire son jugement. Ils peuvent dire à leur chef de groupe, eh bien, nous avons une expérience personnelle, nous pouvons mettre un visage sur les questions qui se posent.
On est dans l'émotionnel, hein, presque, là. Donc ces grands débats de société,
Laissez-nous voter, si je veux, quand je veux, quand je peux, dirait Bibi Adam. Ils retrouvent leur liberté. Et donc ceux qui parlent au moment de la loi Veil, ils sont très nombreux, les députés médecins, et ben ils parlent par exemple au nom de leur expérience de médecin.
Mais est-ce qu'il y a eu des grands débats comme ça dans le reste de l'Europe pour la légalisation de l'avortement, sachant qu'il y a, quand la France a légalisé l'avortement, il y avait des pays qui avaient déjà légalisé l'avortement bien avant, c'est le cas de l'Angleterre 7 ans avant. Est-ce que ça a été aussi passionnel? On a vu qu'avec le mariage pour tous, par exemple, ça n'avait pas été aussi passionnel dans d'autres pays d'Europe.
Je ne sais pas si ça va pas devenir passionnel dans d'autres pays d'Europe. Je ne sais pas s'il y a une spécificité française à ce niveau-là. Il faut voir ce qui s'est passé en Pologne ou en Irlande, par exemple. Ça a été extrêmement dur. Cette question a été abordée, peut-être légèrement étouffée, parce que la démocratie en Pologne n'est pas tout à fait celle qui est la nôtre, dans la mesure où l'expérience est relativement récente. Mais tous ces débats, sur pas simplement sur la question de l'avortement, mais sur la question de la sexualité, du contrôle de la sexualité des femmes, c'est un petit peu partout. On oublie assez souvent, par exemple, que ce sont les féministes sénégalaises qui, les premières, se sont heurtées à la pratique et à la coutume de l'excision. C'est-à-dire qu'elles sont parties en lutte contre cette pratique et elles continuent à se battre. Et je crois que là-dessus, nous avons des leçons à recevoir de tous ces pays. Regardez ce qui se passe en Inde. Et en Inde, c'est pas la première fois que les femmes et les féministes se battent contre l'assujettissement dont elles sont victimes, et pas simplement l'assujettissement en tant que femme, mais aussi en tant que minorité, paria et autres. C'est une vieille tradition.
L'Inde qui a légalisé l'avortement 3 ans avant la France, d'ailleurs.
Oui,
pas mal de le rappeler.
Oui, mais je crois que là-dessus, disons que la question de la légalisation, c'était aussi une façon de réguler les naissances de manière un petit peu brutale, puisque pas simplement l'avortement, mais aussi la façon dont on règle la question en essayant de...
Vous voulez dire qu'on fait avorter pas mal de femmes pour qu'il n'y ait pas trop de filles.
Voilà.
Une autre question qui est très largement d'ailleurs évoquée dans notre émission. Non, mais sur Bibia Pavard, sur cette passion autour des droits sexuels, finalement, ce qui est en dessous de la ceinture. Alors, dans le livre de Jean Lebrun, il y a aussi de grands débats qui traversent la société, l'Assemblée nationale, largement au-dessus de la ceinture. C'est le cas de la peine de mort.
Il y a toujours de l'émotion dans les grands débats. Et puis pourquoi vous voulez absolument qu'on fasse comme les autres? C'est pas tellement un argument juridique valable, c'est parce que c'est comme ça ailleurs qu'il faut que nous ne prenions pas de retard.
Bibia Pavard, hein.
Oui, je pense que c'est pas simplement les débats qui sont au-dessous de la ceinture, comme vous le signalez, ce sont plus généralement les débats sur la question de la famille et des valeurs familiales qui divisent. Alors, on parle souvent d'une division droite-gauche qui est à nuancer, en fait, parce que c'est pas vraiment une division droite-gauche stricte, c'est une division conservateur-libéraux et qui traverse tous ces débats, le divorce, l'avortement, la contraception, le mariage,
sur les droits humains, finalement.
Les communistes ont failli voter contre parce qu'ils avaient des positions conservatrices anciennes, et il y a un tiers de la droite qui a voté pour.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on élargisse peut-être le débat, parce que Jean Lebrun, dans votre livre, on se rend compte qu'il y a toute une notion aussi, un affrontement autour de la notion de courage en politique. Vous avez cité à plusieurs reprises le fameux député du Jura, René Feit, à l'Assemblée nationale en 74 sur le débat de la légalisation de l'avortement. Lui-même cite André Malraux et dit « Rien n'est plus important dans l'histoire du monde que de faire partie des gens qui ont été capables de dire non ». Et Simone Veil, le 28 novembre 74, toujours à l'Assemblée, qui dit « Dire non n'est pas toujours la solution du courage. Le courage consiste à ouvrir les yeux ». Qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement sur le non?
Agiter le mot de résistance et s'abriter derrière lui, c'est facile d'être résistant.
On est 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale à l'époque.
L'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, et Simone Veil qui avait, elle, fait l'expérience de la Deuxième Guerre guerre mondiale presque jusqu'au bout, savait situer le courage qui n'était pas seulement dans le panache, le verbe éloquent.
Non, mais se dire non, il y a encore beaucoup de résonance dans l'actualité d'aujourd'hui, hein, dans certains de nos pays qui souhaiteraient laisser les chefs d'État ad vitam aeternam et qui ont envie de dire non, par exemple.
Bien sûr.
Mais ça dépend des conditions, ça dépend de la situation. Le courage, c'est de regarder en face, hein, tout simplement, et de savoir qui on est, dans quel monde on est. Et ça, c'est la chose la plus difficile. C'est comme la liberté, ça s'acquiert réellement, mais c'est toujours en devenir. Donc, le courage, c'est de savoir où nous sommes. Et ça, c'est pas toujours facile.
Eh bien, c'est une très bonne conclusion. Merci à tous les trois d'être passés par le studio de 7 milliards de voisins. Michel Rio-Sarcey, vous avez publié De la différence des sexes, le genre dans l'histoire chez Larousse et l'histoire du féminisme à la découverte. Et vous préparez d'ailleurs la troisième édition, hein, je crois. Jean Lebrun, vous êtes producteur de l'émission La Marche de l'Histoire sur France Inter, tous les jours du lundi au vendredi à quelle heure
vous avez... À 13h30, je vais rejoindre
vous filez pour le direct. À lire évidemment votre livre Les grands débats qui ont fait la France chez Flammarion. Bibia Pavard, vous avez publié Les lois Veil chez Armand Collin et Si je veux, quand je veux chez Pure Édition. Tout est bien sûr noté sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins et les émissions sont en libre service, c'est-à-dire en podcast. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Jonas Malé-Solars, Jonathan Brady. Demain, 7 milliards de voisins, la parole est à ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain au jour le jour pour faire émerger le continent avec les conseils du coach Didier Akwété. Appelez-nous dès maintenant pour nous présenter vos projets business. 33 1 84 22 71 71. À demain les voisins.